Il y a une pratique vraiment fascinante qu'on peut observer chez certains joueurs de badminton professionnels juste avant un grand match.
Ah oui, la fameuse manipulation du volant.
Voilà, exactement. Avant même de servir, ils prennent le volant, ils l'inspectent et parfois, ils vont délibérément tordre ou même casser très légèrement la base de certaines plumes vers l'extérieur.
C'est vrai que, vu de l'extérieur, ça ressemble à un vieux tic nerveux. Ou à une superstition.
C'est ça. Mais en réalité, ils sont en plein piratage des lois de la physique. Ils modifient l'aérodynamisme du volant en direct, en fait. Le but, c'est de s'adapter à la température ou à l'humidité de la salle et de changer la façon dont le volant va freiner dans l'air.
Et c'est une manipulation ultra concrète de ce qu'on appelle en physique la mécanique du point. C'est d'ailleurs exactement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui.
Absolument.
On va essayer de dévoiler la grammaire invisible qui régit absolument tous les mouvements. Parce que le but de cette discussion, c'est de comprendre comment des concepts mathématiques, des équations très strictes, nous permettent de prédire l'avenir d'un objet en mouvement, que ce soit un simple volant en plume ou même un électron microscopique.
Ce qui est génial avec ces concepts, c'est qu'ils nous forcent vraiment à abandonner notre perception intuitive. Dans la vie de tous les jours, on perçoit le mouvement comme un truc fluide, une série d'événements continus.
Ouais, tout à fait.
Mais la cinématique, donc cette branche de la physique classique, elle nous demande de découper la réalité. On n'observe plus le mouvement dans son ensemble. On va scruter la position, la vitesse, l'accélération d'un objet. Et tout ça à travers le prisme très strict des vecteurs. Et c'est là que ça devient vite contre-intuitif.
Bah, totalement. L'intuition humaine, elle associe toujours l'accélération à cette sensation physique d'être écrasé au fond de son siège, tu vois.
Ouais, quand une voiture accélère fort en ligne droite.
Exactement. Pour nous, c'est l'augmentation pure de la valeur de la vitesse sur le compteur. Mais la géométrie vectorielle impose une nuance vraiment redoutable ici. Parce qu'on parle de vecteur, et un vecteur, ça a une valeur, mais aussi une direction.
Et un sens, ouais. Donc ça change tout.
Ça change tout. Prenons le cas d'une voiture sur un immense circuit circulaire. Le conducteur met le régulateur de vitesse bloqué sur 100 km/h. La valeur de la vitesse est parfaitement constante. Il n'y a pas de doute là-dessus.
5 km/h tout du long.
Voilà. Pourtant, d'un point de vue purement cinématique, cette voiture est en état d'accélération perpétuelle.
Attends. Même si l'aiguille du compteur ne bouge pas d'un millimètre ?
Même si l'aiguille ne bouge pas. Parce que la direction du capot de la voiture change à chaque fraction de seconde pour suivre la courbe de la route. Le vecteur vitesse change d'orientation en permanence.
Ah, d'accord. Donc, comme la direction change, mathématiquement, il y a une variation.
C'est ça. Le maître mot en cinématique, c'est la dérivée par rapport au temps. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. On écrit ça V égale DOM sur DT.
OK. La variation de la position dans le temps.
Et l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. A égale dv sur dt. Donc même si la valeur de la vitesse est fixe, comme sa direction change sur notre circuit circulaire, sa dérivée n'est pas nulle. Il y a une accélération dirigée vers le centre de la courbe. Et la puissance de cette approche avec les dérivées, c'est qu'elle transforme la physique en machine à prédire l'avenir. Parce que le processus mathématique est réversible.
Avec les primitives, c'est ça.
Oui. Si tu connais l'accélération d'un objet et ses conditions initiales au moment zéro, tu peux utiliser les primitives pour remonter à sa vitesse. Et ensuite, tu fais une autre primitive pour trouver sa position exacte à n'importe quel instant dans le futur.
On déroule le film de la trajectoire, en fait. C'est brillant, ça nous donne une carte ultra précise. Sauf que y a un énorme angle mort dans tout ça.
Lequel ?
Bah, la cinématique, elle décrit le comment. Comment l'objet bouge. Mais elle est complètement muette sur le pourquoi. Les équations te donnent l'accélération, ok, mais elles te disent pas ce qui l'a déclenché. L'univers se met pas à bouger juste pour faire plaisir à une équation sur un tableau.
Et c'est là qu'on fait la grande bascule entre la cinématique, qui se contente de décrire, et la dynamique, qui va expliquer. Pour modifier ce fameux vecteur vitesse, il faut une cause physique. Il faut une interaction avec l'environnement.
Et ça, c'est l'entrée en scène de Monsieur Isaac Newton.
Absolument. Newton a formalisé tout ça avec le concept de force. C'est la célèbre deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique. C'est l'équation qui relie enfin la cause, donc la force, à l'effet, l'accélération.
La somme des forces est égale à la masse multipliée par l'accélération. La fameuse formule somme df égale ma.
Voilà. Et le rôle de la masse dans cette équation est fascinant.
Oui, parce qu'il faut bien séparer la masse et le poids. C'est une confusion super courante. Le poids, c'est juste l'attraction de la Terre. Mais dans l'équation de Newton, La masse, elle agit comme une résistance, non ?
C'est exactement ça. La masse, c'est une mesure de l'inertie. Si tu pousses un caddie de supermarché vide, avec une certaine force, il va accélérer très vite. Mais si tu appliques exactement la même force sur un réfrigérateur de 100 kg...
L'accélération va être ridicule.
Ouais. La matière est fondamentalement paresseuse. Plus un objet est massif, plus il résiste au changement de son mouvement.
Donc plus on veut l'accélérer, plus il faut y mettre de la force. Mais du coup, ça soulève un truc dingue concernant l'immobilité. Si j'ai bien compris la loi Newton, si la somme des forces extérieures sur un objet est nulle...
Son accélération est nulle, forcément.
Sauf qu'un objet sans accélération n'est pas forcément un objet à l'arrêt.
Ah bah non. Et c'est là que le cerveau humain bug un peu. Sur Terre, on a l'habitude que tout finisse par s'arrêter. Si je pousse un livre sur une table, il glisse, il ralentit, il s'arrête.
À cause des frottements.
Toujours les frottements. Mais dans un univers théorique, sans frottement, si un objet est déjà en mouvement et que soudain la somme des forces devient nulle, sa vitesse se fige. Il va continuer d'avancer en ligne droite, à vitesse constante pour l'éternité. C'est le principe d'inertie, le mouvement rectiligne uniforme.
C'est fou de se dire que le repos absolu n'est qu'un cas particulier de ce principe. Mais on peut quand même l'observer sur Terre, ce mouvement sans accélération. Je pense au classique exemple du parachutiste.
Ah oui, très bon exemple.
Quand il saute de l'avion, au tout début, la gravité le tire vers le bas, donc il accélère violemment. Mais plus il chute vite, plus l'air vient frotter contre lui. La résistance de l'air augmente et pousse vers le haut.
Jusqu'au point de bascule.
Voilà. Le moment précis où la force de frottement de l'air vers le haut compense exactement le poids du parachutiste vers le bas. Les deux forces s'annulent. La somme vectorielle tombe à zéro.
Et à cet instant, il ne s'arrête pas en plein ciel, bien sûr, mais son accélération devient nulle, ce qui veut dire que sa vitesse se verrouille, par exemple à 200 km par heure, et il finit sa chute à une vitesse constante. C'est un équilibre dynamique parfait.
Ok. Donc la matière résiste au changement et les forces imposent ce changement. Maintenant, pour voir cette grammaire mathématique vraiment en action, on doit observer comment elle réagit dans des champs uniformes, des zones où une force s'applique de manière constante. Et là, on peut revenir à notre joueur de badminton.
Tout à fait. Et c'est génial de comparer son volant en plume à, disons, une balle de golf. Ça illustre parfaitement le choc entre la théorie pure et la réalité de notre atmosphère.
Ah ouais, le grand écart.
Si on se place dans le vide total, les équations sont catégoriques. L'accélération d'un objet en chute libre ne dépend que du champ de pesanteur, le fameux petit g. La masse n'intervient plus dans l'équation de la trajectoire.
Donc, sans air, la petite balle de golf de 45 grammes et le volant de badminton de 5 grammes...
Ils tombent exactement à la même vitesse. Si tu les lances avec le même angle et la même vitesse initiale, autant t égale 0, ils dessinent rigoureusement la même parabole parfaite. Les conditions initiales dictent tout.
Sauf qu'en vrai, on joue pas au badminton sur la Lune. Il y a de l'air. Et l'air, c'est dense.
Et c'est là que le profil aérodynamique entre en jeu. La balle de golf est dense et compacte. Elle fend l'air sans trop de problèmes. Elle garde une belle trajectoire parabolique, très proche de la théorie.
Mais le volant, avec sa jupe en plume évasée, c'est une catastrophe aérodynamique par design.
C'est conçu pour ralentir. La force de frottement de l'air devient énorme comparée au poids minuscule du volant. Le résultat, c'est que le volant monte en ligne droite, il perd toute son énergie cinétique très vite et il s'effondre presque à la verticale. On appelle ça la trajectoire parachute.
Et donc, en cassant un peu les plumes, les joueurs changent le coefficient de frottement dans l'équation. C'est brillant. Mais bon, la mécanique de Newton ne sert pas qu'à gagner des matchs de raquettes. À la fin du 19e siècle, ces mêmes principes ont permis une découverte incroyable.
Oui, on parle d'utiliser les mathématiques des boulets de canon pour prouver l'existence d'une particule invisible, l'électron.
C'est fou ça. Comment on en est arrivé là ?
C'est le physicien J.J. Thomson qui a fait ça en 1897. Il étudiait des rayons mystérieux dans un tube en verre sous vide. Et pour savoir de quoi ces rayons étaient faits, il a eu l'idée de les faire passer dans un champ électrique uniforme.
Donc il a mis deux plaques métalliques, une chargée positivement, une négativement. Et il a fait passer son rayon au milieu.
Exactement. Le champ électrique, par convention, va du plus vers le moins. Or, Thomson a découvert que son faisceau était dévié par ce champ. Mais pas n'importe comment, il a été attiré par la plaque positive.
Ah !
Ce qui veut dire que les particules du rayon avaient une charge électrique négative. C'est ça. Et c'est là que l'équation se corse un peu par rapport à la gravité terrestre. La force électrique, c'est F égale Q multiplié par E, le champ électrique. Comme la charge Q de l'électron est négative, la force appliquée est dans le sens inverse du champ électrique.
Attends, donc si je mets la plaque positive en haut et que le champ électrique descend vers le bas...
L'électron, lui, va être propulsé vers le haut. Il subit une accélération à contre-courant du champ électrique.
C'est comme s'il tombait à l'envers. C'est génial. Et du coup, sa trajectoire ressemblait à quoi?
À une parabole. Une belle parabole incurvée vers le haut. Et en mesurant exactement la courbure de cette parabole, avec les mêmes équations de cinématique qu'on utilise pour une balle de golf, Thomson a pu calculer le rapport entre la masse et la charge de l'électron.
Il a pesé une particule subatomique juste en regardant comment elle courbait sa trajectoire. C'est l'élégance absolue de cette physique. Les mêmes règles pour un obus de 10 tonnes et pour un électron.
C'est vertigineux, oui.
Mais on peut aussi analyser le mouvement sans s'embêter à calculer des vecteurs instant par instant. Il y a une autre méthode, dans les sources qu'on a étudiées, une approche beaucoup plus globale.
L'approche par l'énergie, oui.
On range notre casquette de géomètre pour mettre celle de comptable de l'univers.
J'adore cette idée de comptabilité. Le principe, c'est de regarder l'énergie mécanique d'un système. J'aime bien utiliser l'analogie du compte en banque pour l'expliquer.
Vas-y, je t'écoute.
Disons que l'énergie cinétique, donc l'énergie liée à la vitesse, 1/2 de mv au carré, c'est ton argent liquide. Il est là, disponible tout de suite, c'est le mouvement visible.
D'accord. Et de l'autre côté, t'as l'énergie potentielle, comme celle de pesanteur, mgh, qui dépend de ton altitude. Ça, c'est ton compte épargne. L'argent est bloqué, il n'y a pas de mouvement visible, mais il a le potentiel d'être libéré à tout moment. Et la somme des deux, l'argent liquide plus l'épargne, c'est ton énergie mécanique.
L'analogie est parfaite. Et l'énergie potentielle, c'est souvent ce qui est le plus dur à visualiser. Parce que c'est une énergie en attente. C'est comme quand tu tires la corde d'un arc au maximum. Rien ne bouge, la vitesse est à zéro. Mais tu sens sous tes doigts la violence de l'énergie stockée.
Ouais, il y a une vraie tension physique. Et le grand principe, dans un monde idéal sans frottement, c'est que le solde total du compte en banque ne change jamais.
C'est la conservation de l'énergie mécanique.
Si on fait un graphique, la courbe de la somme des deux énergies forme une ligne droite parfaitement plate.
Dans le vide, oui, la conversion est parfaite. Mais, car il y a toujours un mais dans la vraie vie.
La taxe des frottements.
Eh oui, si tu fais rouler une balle de ping-pong sur un tapis rugueux, elle ralentit et finit par s'arrêter. Son altitude n'a pas bougé, mais sa vitesse est tombée à zéro.
Donc le compte en banque s'est vidé. L'énergie mécanique totale a baissé.
Et on pourrait se dire que c'est un scandale, qu'on a détruit de l'énergie et violé les lois de l'univers. Mais la thermodynamique est formelle. L'énergie ne se perd jamais, elle se transforme.
Du coup, cette énergie qui manque au bilan à la fin, elle est passée où?
Elle est exactement égale au travail des forces de frottement. Et concrètement, elle est dissipée sous forme de chaleur.
Ah, ça chauffe!
Voilà. Quand notre balle frotte sur le tapis ou quand le volant de badminton freine dans l'air, la friction agite les molécules. L'énergie mécanique, qui était très ordonnée, s'est dégradée en agitation thermique chaotique dans l'atmosphère.
Donc l'univers s'est réchauffé d'un infime chouïa.
Exactement. Le grand registre comptable de l'univers est toujours parfaitement à l'équilibre si tu inclus la chaleur.
C'est un changement de perspective qui est, franchement, qui laisse sans voix. Que ce soit avec des vecteurs complexes, milliseconde par milliseconde, ou en regardant juste le bilan énergétique global, la mécanique classique est d'une fiabilité redoutable.
C'est un triomphe absolu de l'esprit humain. Ces équations nous ont permis d'envoyer des fusées sur la Lune et d'explorer le système solaire. Mais, et c'est très important pour conclure, ce modèle a une faille majestueuse.
Un mur de verre sur lequel on finit par s'écraser ?
Un mur de lumière, plutôt. La mécanique classique repose sur l'idée que le temps et l'espace sont des règles fixes et que la masse d'un objet ne change jamais.
Ce qui est vrai pour des balles de golf ou même des fusées.
Oui. Mais si on reprend notre petit électron de J.J. Thomson, imaginons qu'on le mette non pas dans un petit tube en verre, mais dans un accélérateur de particules modernes de plusieurs kilomètres.
On l'accélère avec des champs électriques surpuissants.
Voilà. L'électron va de plus en plus vite. Il accumule une énergie cinétique colossale. Mais plus il s'approche de la vitesse de la lumière, plus l'équation de Newton se fracture.
Ah, la force ne produit plus la même accélération.
Non, la force qu'on continue de lui appliquer ne sert presque plus à augmenter sa vitesse. Au lieu de ça, toute cette énergie sert à augmenter sa masse inertielle. L'électron devient virtuellement de plus en plus lourd à accélérer.
Et donc, les règles rassurantes de Newton s'effondrent complètement.
Complètement. À ces vitesses extrêmes, la cinématique classique doit s'effacer devant la théorie de la relativité d'Einstein.
La prochaine fois qu'on verra un objet tomber, ou qu'on sentira le vent freiner notre main par la vitre d'une voiture, on repensera à toute cette machinerie invisible. Merci d'avoir décortiqué ça avec nous.
Avec grand plaisir. C'était fascinant.